Et à 8h38, pour conclure ces matins, nous allons faire une balade sur des terres inquiétantes, une balade qui pourrait bien nous conduire jusqu'au bord de la folie sur les traces d'un auteur qu'il a lui-même frôlé, avec un guide dont nous allons savoir d'ici quelques instants s'il en est lui-même revenu sain d'esprit ou non. Bonjour François Bon.
Bonjour, il va falloir mettre à mal la légende.
Alors vous revenez tout juste d'une vaste pérégrination sur les traces d'Howard Phillips Lovecraft en Nouvelle-Angleterre, plus précisément dans le minuscule état de Rhode Island, dans la ville de Providence, où a vécu Lovecraft et où se déroule une grande partie de ses récits. Un voyage qui s'inscrit dans votre travail de retraduction des œuvres de Lovecraft, un travail que vous avez initié il y a 5 ans maintenant, qui porte ses fruits, hein, puisque les premiers volumes de ces traductions nouvelles sont disponibles depuis le printemps dans la collection Point Seuil, ainsi que sur votre site de lovecraftmonument.com. Alors avant de parler de ce voyage, de ce que vous êtes allé chercher et de l'état de votre santé mentale, hein, qui selon les normes lovecraftiennes devrait être vacillante après avoir plongé dans ces sommes d'horreurs indicibles et cyclopéennes, il faut dire un mot du travail littéraire de Lovecraft pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiers de cette littérature. Comment est-ce que vous décririez, François Bon, à quelqu'un qui n'a jamais lu Lovecraft, le travail littéraire de cet auteur ?
Rien à voir avec la folie, rien à voir avec les horreurs et tout le folklore. C'est un type qui a toujours vécu dans l'écriture, qui est mort à 46 ans jusqu'à de son enfance et adolescence, de ses 10 ans à ses 26 ans. Ce qu'il passionne, c'est la science, l'astronomie, la chimie. Il y a toujours ce lien comme ça entre littérature et science qui est fascinant. Ensuite, il se balance dans le journalisme amateur. C'est comme ça qu'il se met vraiment à passer à la fiction. Et puis, petit à petit, alors qu'évidemment, il n'y a pas de livre, il n'a jamais eu un livre publié de son vivant, il y a cet univers de la presse magazine avec large diffusion dans laquelle il s'impose avec des textes qui sont carrément des poèmes en prose. Et dans ce laboratoire de poèmes en prose, petit à petit, il glisse à des courts romans, 120, 140 pages, qui sont pour nous aujourd'hui des modèles d'imaginaire, des modèles de logique, mais pour moi qui sont une écriture au même titre que Proust ou Kafka, quoi, c'est tout.
Qu'est-ce que vous êtes allé chercher alors, on va commencer par le début. Déjà, à quel moment vous avez commencé à vous intéresser au travail de Lovecraft ? Par quel biais vous êtes entré dans cette littérature ?
Le biais, c'était Providence. C'était vraiment débarqué à Providence il y a 5 ans, au mois d'avril 2010. Justement, on s'y arrête parce que Lovecraft, puis on s'aperçoit qu'il n'y a nulle part Lovecraft. Il n'y a pas de rue Lovecraft, il n'y a pas de document. Il n'y a rien, il n'y a aucune trace, il n'est pas dans les librairies, enfin si maintenant je sais où, les bouquinistes et tout ça. Et par contre, tout d'un coup, je m'aperçois que ce type qui a toujours vécu comme ça dans des pioles sur un mouchoir de poche, comment la ville elle-même, par exemple, a un clocher qu'on aperçoit au loin, et puis quand on approche pour essayer de le trouver, tout d'un coup, ce truc-là, on ne le retrouve jamais. Ou alors, une histoire fascinante, souvenir d'adolescence, la maison maudite, et puis en fait, la maison est complètement banale, quoi, elle est en plein cœur de truc, et je me suis dit, j'ai rien compris à Lovecraft. Et là, je me suis mis à le lire en anglais, tout simplement. Puis je me suis aperçu que la langue, ces espèces de strates noires, transparentes, vertigineuses, ces apics, cette logique de narration, c'était pas du tout le souvenir que j'en avais, quoi. Donc c'est venu pas après, ça s'est enchaîné comme ça.
Il y a deux choses, hein. Vous écrivez donc sur le site dédié à ce travail que vous effectuez sur Lovecraft. Il nous faut aimer Lovecraft malgré les Américains. Lovecraft est encore très mal aimé et aux États-Unis et en Europe.
En Europe, je pense qu'il y a bizarrement, c'est comme Edgar Poe, c'est-à-dire il y a eu cette tradition qui fait que même les surréalistes, même Julien Gracq, quand en 71 il se retrouve à Madison, Wisconsin, dans son premier voyage aux US, il va déjeuner avec August Derleth, tout simplement parce que Lovecraft, Derleth, justement, ce lien, l'autre est vraiment surréaliste, etc. Il y a une tradition française de considérer cette exception littéraire pour ce qu'il était, littéraire. Maintenant, aux US, ouais, il est complètement boycotté, ignoré des facs, etc. En même temps, il y a toute une génération de nouveaux doctorants, par exemple, là, en bibliothèque, j'avais un type qui travaillait à côté de moi sur Lovecraft et l'architecture, tout ça. Donc, bon, on sent que le truc est fait. On a maintenant des éditions correctes. C'est très récent, par exemple, un texte aussi important que Dans l'abîme du temps. C'est un texte dont le manuscrit a émergé en 1997, a été repris, corrigé en 2004. Donc, je pense que c'est seulement maintenant aussi qu'on... par exemple, l'univers, le continent des lettres, on en a jusqu'à peu... Maintenant, on en a à peu près 1800 de publiés, on en a 10 000 d'accessibles, et on met la somme globale de lettres entre 30 000 et 50 000. Évidemment, on peut pas évaluer. Mais il y a un continent littéraire, là aussi... puis maintenant vient sur le dessus, quoi.
Vous dites un écosystème quand vous parlez de l'œuvre de Lovecraft, entre ses cahiers, ses carnets, parce qu'il a aussi une profusion de carnets dans lesquels il notait tout. Voilà, c'est ça que vous êtes allé chercher à Providence, ses lettres, ses nouvelles, ses poèmes. Il y a vraiment une faune comme ça, un
pour
univers.
Pour moi, c'est un petit peu comme Proust, quoi. On a affaire, on est dans une période complètement transitionnelle, 1925-1930, c'est la mutation justement de la radio, mais c'est aussi l'exploration
spatiale.
Je pense
à cause de The Whisperer in the Dark.
Premier voyage d'Amundsen en avion au pôle Nord. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose au pôle Nord ou pas? L'Antarctique, est-ce que ça existe ou pas, etc. Donc un imaginaire qui est encore aussi cartographique. Qu'est-ce qu'il y a dans le fond des mers? Donc tout ça, ça se passe dans ce même moment. L'imaginaire de Lovecraft se greffe comme ça complètement sur ce qu'il y a de... quasiment de technique, quoi, en son temps. Et c'est une écriture comme Proust, on a au quotidien, on a les petits agendas, on a les lettres, on a les cartes postales, on a évidemment les carnets qui sont les premières rédactions, on a les dactylogrammes, on a les révisions. Et donc on peut vraiment travailler comme ça sur le timing précis, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans les moments où on n'écrit pas, avant une histoire, qu'est-ce qui se passe aussi dans les récurrences de ces histoires de 15-20 pages, où on voit une idée émerger. Et puis, plouf, petit à petit, l'idée glisse vers sa réalisation ultime. Puis, en plus, Lovecraft, évidemment, il y a ce hasard. Bon, il est bouffé par un cancer foudroyant à 46 ans, le même âge que Baudelaire, dans une période où advient, comme ça, la première reconnaissance. Et le gars, qui est un jeune type de 19 ans, qui hérite, auquel Lovecraft lègue tous ses papiers, il sait pas quoi en faire, cette masse de papiers. Donc, il demande à l'université où Lovecraft, qui hébergeait quasiment Lovecraft dans les, tout près de ses bâtiments, la Brown, d'en accepter le dépôt à la bibliothèque. La bibliothèque ignore ces types, méprise ces types, mais en même temps, il garde les papiers. Puis donc, dans les années 70, on découvre ces mâles, quoi, qui sont pas du tout même encore, elles sont que seulement partiellement catalogué et tout ça. Donc ça, c'est pour ça que je voulais y aller voir.
Ce qui est intéressant dans ce que vous décrivez, c'est qu'effectivement, cette terre qui est encore une terra incognita, hein, on découvre l'Antarctique, on commence à sonder les profondeurs, ça se répercute immédiatement dans la littérature Lovecraftienne. Ces endroits extrêmes, les pôles, les abysses, sont des endroits d'où naît l'inquiétude. La terre sur laquelle on naît est un endroit inquiétant.
Il travaille sur la peur, l'angoisse, mais en même temps, il le fonde littérairement. C'est un des textes théoriques principaux. Il y a l'histoire du surnaturel dans la littérature, ça, il le fonde chez Poe, chez Hawthorne, chez des tas d'auteurs aussi de la littérature anglophone que nous, on a laissé un petit peu tomber. Dunsany, Algernon Blackwood, Arthur Machen, etc. Et là aussi, je pense qu'il y a un déplacement d'équilibre, parce que cette idée dominante de la littérature, par exemple, comme je travaille sur l'année 1925, je lis le Times tout le matin, je lis le Times de l'année à 90 ans d'écart, et tous les dimanches, il y a le supplément littéraire, mais c'est aussi triste que le supplément littéraire d'aujourd'hui, quoi. De quoi on parle, quoi. Le succès aux USA, c'est un livre, Anatole France en pantoufle, ou Romain Rolland, ou tous ces trucs-là, ou les types qui sont reçus à l'Académie française, quoi. Et en même temps, les types comme Hart Crane, ce type-là qui va, homosexuel, là, qui se jette d'un paquebot, qui est contraint à se suicider, là, en 1934, qui était un ami une relation de Lovecraft, qui a fait un livre de poèmes uniquement sur le Brooklyn Bridge, quoi. C'est des trucs qui sont fondamentaux. Et comme pour Lovecraft, les seules références dans le New York Times, ce sera quand il crève, quoi. C'est-à-dire, ça aussi, c'est-à-dire cette condition-là de l'auteur sans livre, de la profusion d'écrire en dehors, comme ça, d'un système de publication. Ça, je crois que aujourd'hui, ça prend une dimension vitale, quoi, tout simplement.
À quel moment vous est apparu, François Bon, la nécessité de proposer une nouvelle traduction de Lovecraft? Vous disiez que les traductions précédentes, que j'ai amenées avec moi comme vieux lecteur de Lovecraft que je suis, projetaient sur la sombre âpreté poétique et rythmique de Lovecraft la langue du grand élan indifférencié de la science-fiction.
Ouais, bon, faut pas... Ça, c'est du...
Ce sont vos mots, François.
C'est mes mots, mais je me détermine pas par rapport aux traductions. collection de Jacques Papy, qui a fait un travail exceptionnel dans son époque, de découverte, etc. Simplement, effectivement, dans le contexte de la grande science-fiction américaine, Bradbury, Asimov, etc. Et donc avec une idée, pas de littérature grise, mais qu'on est dans une littérature narrative, populaire. Et donc tout ça, et en plus, qu'est-ce qu'on savait de Lovecraft, sinon la légende produite de façon posthume par Auguste Derleth. Donc c'est une traduction où il manque environ 20 ou 30%, où on simplifie, etc. Dans les années 70, il y a cette très belle édition bouquin qui a pour nous tous, c'était une révélation en trois tomes, où d'autres traducteurs viennent compléter Papy. C'est de Brick et de Brock, mais de toute façon, c'est pas les mêmes textes. Donc à partir de ce moment-là, moi, pour moi, c'était un exercice, c'est comme de prendre la guitare de temps en temps, quoi. C'était se concentrer, entrer là-dedans. Et tout d'un coup,
La guitare, qu'est-ce que ça veut dire?
Ou faire du tricot. C'est-à-dire, la traduction, pour moi, c'est un truc mental extraordinaire, qu'on n'a pas à chercher, c'est devant nous. Et en même temps, il faut rejoindre ça. Il faut travailler, par exemple, les bassins de langage, les bassins sémantiques. C'est-à-dire, Lovecraft travaille toujours avec une langue décalée du XVIIIe siècle, ou toujours des langues, celles des narrateurs, qui sont des braves universitaires. Enfin, en tout cas, toujours des universitaires pas très futés. Il y en a, heureusement, il y en a d'autres, dont Yoshi, qui a fait un travail considérable sur ce Lovecraft, mais c'est des braves gens, ils comprennent pas ce qui leur arrive, donc ils sortent leur discours, mais c'est leur discours comme ça, ou des rapports de presse, ou des coups de téléphone retranscrits, ou des choses qu'on entend, des messages recopiés par très très vite à la radio.
C'est des nouvelles, c'est une écriture très composite, l'écriture de Lovecraft.
Elle utilise comme ça une espèce de multiplicité de strates langagières qui sont irréfutables, parce que c'est la langue de tous les jours, la langue des rapports, la langue des comptes rendus, la langue des journaux, etc., etc. Et ce truc, comment on rend ces écarts-là? Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui écrire du Lovecraft en imitant ce qu'il fait sur le XVIIIe siècle, ça rendrait pas? Par contre, souvent travailler sur la période Jules Verne ou fin du XIXe, ou les traductions de Baudelaire par Baudelaire, on peut arriver à recréer ces petits écarts-là, et ça, c'est un plaisir de langue monstrueux, quoi. Puis surtout, ce truc de Lovecraft, que chaque phrase sur 70 pages a sa fonction et sa fonction unique. Donc on est dans un défi logique. Ouais, moi ça me fait du bien. Ouais.
Je vous propose d'écouter un extrait de l'Incipit, de peut-être l'une des nouvelles les plus connues par la postérité, les plus retenues par la postérité de Lovecraft, L'Appel de Cthulhu. C'est un extrait de l'émission Une vie, une œuvre sur France Culture qui a été diffusée le 20 mai 2007.
Nous vivons sur une île de placide ignorance au sein des noirs océans de l'infini et nous n'avons pas été destinés à de longs voyages. Les sciences dont chacune tend dans une direction particulière ne nous ont pas fait trop de mal jusqu'à présent. Mais un jour viendra où la synthèse de ces connaissances dissociées nous ouvrira des perspectives terrifiantes sur la réalité et la place effroyable que nous y occupons. Alors cette révélation nous rendra fous, à moins que nous ne fuyions cette clarté funeste pour nous réfugier dans la paix d'un nouvel âge de ténèbres.
Voilà, bon réveil si vous nous rejoignez. C'est
ouais,
assez.
C'est là mon défi, quoi. Il y a une manière beaucoup plus rock'n'roll d'appréhender cette langue, quoi. Type est littéralement un excité de la langue.
Alors, parlez-nous justement un peu de ça, parce que Lovecraft est connu et parfois raillé pour son goût, pour l'accumulation qualificative, pour décrire, puisque pour parler un peu de l'univers de Lovecraft, ce sont des universitaires ou éventuellement des journalistes qui sont confrontés à quelque chose qui relève d'un autre temps que l'esprit humain ne peut pas appréhender. Donc le défi de l'écriture lovecraftienne, c'est de décrire ce qui ne peut pas être décrit. Et donc chez Lovecraft, l'horreur, elle est inhumaine, elle est indicible, elle est irrationnelle, abominable, cyclopéenne, etc., etc., j'en passe. Comment est-ce que vous vous êtes saisi, vous, François Bon, de cette espèce de surenchère adjectivale chez Lovecraft?
C'est un défi, les adjectifs, parce qu'ils sont toujours récurrents. C'est vrai aussi pour les noms, par exemple, the thing, la chose. Si on transcrivait littéralement le nombre de fois où Lovecraft utilise ça, d'autant plus que souvent, ces manus, même les plus beaux, les meilleurs, ils restent 3 ans, 4 ans sur la table, il n'y a que des refus de publication. Donc c'est une œuvre qui n'est pas poussée à son truc d'achèvement. En même temps, ces adjectifs, on travaille sur la brume. Là, en ce moment, je suis dans la montagne de la folie. Tout apparaît au lointain, avalé par la brume. Les adjectifs sont cette brume, et du coup, à travers ce truc-là, on a ces effets d'architecture à la Piranèse. Globalement, c'est un beau défi aussi.
Les montagnes de la folie, c'est la façon dont vous traduisez ce qui s'appelait auparavant les montagnes hallucinées.
Mountains of Mountains of Madness.
L'une des dernières traductions que vous avez publiées également sur votre site de lovecraftmonument.com, c'est The Whisperer in Darkness, originellement traduite par Celui qui murmurait dans les ténèbres, et que vous avez choisi de réintituler Chuchotement dans le noir. Racontez-nous ce choix.
Chuchotement dans la nuit.
Dans la nuit.
Whisper in Darkness. Mais les chuchotements n'ont jamais d'émetteur. On voit jamais ces êtres qui se... Quand on arrive tout à la fin dans cette espèce de maison isolée, envahie par ces espèces d'entités. C'est-à-dire que tout d'un coup, la littérature s'ouvre à des entités non humaines. Alors que tout le langage, depuis les tragiques grecs, c'est précisément la... Puis Prométhée, c'est comme le feu. C'est-à-dire l'homme qui se saisit de la parole. Chez Lovecraft, tout d'un coup, la parole est l'homme est dépossédé de la parole. Ce qui émet ce truc-là, ces entités se manifestent par des cerveaux qu'ils ont mis dans des bocaux et qui, sous certaines conditions électriques, vont interférer sur les générer des paroles chez les autres. Donc, ouais, là, il y avait ce travail sur ce whisperer sans sujet. Il y a le travail du neutre aussi qui est difficile.
Il y a un autre paradoxe lovecraftien que je souhaiterais aborder avec vous, François Bon, dans les quelques minutes qui nous restent, c'est que si son œuvre est restée effectivement longtemps mal connue et très peu apprécié et reconnu par la critique ou par les travaux universitaires. En revanche, elle est devenue un objet central et essentiel de la pop culture avec une legacy, comme on dirait en anglais, avec beaucoup d'auteurs qui ont repris, qui ont développé son univers, etc. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe-là, vous ?
Ça a commencé juste après cette fabrication de légende qui est due à ce Auguste Derles qui était le premier à le publier après la guerre en 47, dans ces années-là. Faut pas surestimer ça. Par exemple, les enjeux politiques, pour moi, sont vachement plus importants. Par exemple, redécouvrir comment les USA, après la guerre de 14-18, les États comme France, Angleterre, refusent de rembourser la dette, puisque la dette a servi à acheter des produits, des armes américaines. Du coup, tension là, l'Amérique et les USA qui font une espèce de pacte avec l'Allemagne qui devient une espèce de marché gigantesque. Donc on voit cette espèce de bain là qui au moment de la Grande Dépression joue ou même contribue à fabriquer l'hitlérisme. Les intellectuels de l'époque pas tombent là-dedans, mais Lovecraft n'a pas eu le temps de réviser ou d'effacer les traces. La question de la construction identitaire, quoi. Il est marié à une juive et son meilleur ami Samuel Loveman est une grande culture judaïque, une grande écriture judaïque. Un autre de ses amis, Morton, c'est un des premiers militants pour les droits des Noirs aux USA. C'est peut-être le type qui est le plus proche de lui. Et en même temps, lui tombe dans ces espèces de pièges-là. Là, pour moi, c'est comme Céline, quoi. C'est les contradictions de la littérature
très, très
xénophobe, et de
l'époque.
Enfin, et ça, c'est un chantier pour moi qui me concerne là encore directement dans les enjeux politiques pour maintenant, quoi.
François Bon, vos prochaines traductions sur votre site ou au Point Seuil, ce sont lesquelles ?
J'ai deux chantiers. Le premier, c'est donc là, en ce moment, je suis de Mountains of Madness, qui est un petit peu... c'est comme de la nage en apnée sur
une
distance
nouvelles.
qu'on ne sait pas. Ouais. Au bout de 5 ans, peut-être que je peux y aller. Et l'autre chantier, c'est un espèce de journal, c'est pour ça que Providence pour moi était important, qu'il a tenu en 1925, tous les jours, avec ce qu'il a mangé, les heures, ce qu'il lit, les heures où il écrit, etc. Et on peut refaire un timing comme ça, de toute l'époque.
Et un tout dernier mot, François Bon, est-ce qu'à Providence, vous avez trouvé le Necronomicon de l'arabe fou Abdullah Azred ?
J'ai trouvé, j'allais tous les jours dans une bibliothèque, l'Athénaeum, qui était à 50 mètres de chez Lovecraft, et qui était aussi là aussi où Edgar Poe venait lire le journal tous les jours, et moi je venais dans cette même salle qui était déserte, j'étais dans la chaise où Lovecraft et Poe lisaient les mêmes trucs. C'est pas si mal.
Merci beaucoup François Bon d'avoir accepté notre invitation.